Des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Seille en votre compagnie à l'émission Des livres plein les oreilles. Autour de la table aujourd'hui, eh bien personne, tout comme la semaine dernière d'ailleurs. Un studio de radio, c'est tout petit et il est hors de question de faire prendre des risques évidemment à nos invités ou encore à nos chroniqueurs. Alors cette semaine, notre invité au téléphone... Oh, que ça devrait faire bien plaisir à tous les sportifs et plus spécialement peut-être aux amateurs de baseball, puisque Mark Griffin est mon invité. Alors non, ne vous laissez pas avoir par ce nom si vous faites partie de ceux que ce sport n'intéresse pas. Moi, j'ai eu le plaisir de travailler avec Mark Griffin autour de ce livre et je peux vous dire que pour une fille qui n'y comprenait rien, mais rien de rien aux règles du baseball, eh bien je me suis régalée. D'abord et surtout peut-être parce que Mark est un beau bonhomme dans tous les sens du terme et puis aussi parce que jamais, mais jamais, je n'aurais pu deviner comment on peut devenir un joueur étoile de ce sport, de la ruelle au stade olympique, en passant même par les Jeux olympiques. Alors on va lui demander tout ça à Marc qui vient dont le livre Griffin 26 est maintenant enregistré par lui-même d'ailleurs. Et c'est maintenant, au moment où je vous parle, sur le catalogue de Vues et Voix, à moins que le virus nous ait peut-être empêché de le mettre en ligne, simplement s'il n'y a plus personne dans les bureaux, comme dans la plupart d'ailleurs des bureaux. Je précise à ce titre-là que nous enregistrons toujours avec 2 semaines d'avance cette émission-là, donc c'est la raison pour laquelle je ne sais pas où nous en serons dans 2 semaines. Est-ce que nous serons tous confinés, comme en Europe au moment où je vous parle, ou est-ce qu'on sera peut-être encore là pour vous servir? C'est ce que je souhaite, mais comme nous ne le savons pas, c'est la raison pour laquelle je suis un petit peu ambivalente tout de suite au moment où je vous parle. En seconde partie de l'émission Des livres plein les oreilles, c'est une première dans le domaine du livre audio. La collection pour les nuls, que vous connaissez peut-être, a été enregistrée chez Lizzie, du moins en partie. Lizzie, c'est une maison de production de livres audio et qui fait aussi plateforme, donc on peut se procurer des livres chez eux. Je vous en reparle un peu plus tard. On va écouter ce que ça donne dans cette seconde partie et puis on ira voir les nouvelles dans le milieu littéraire qui tournent au ralenti comme pour le reste d'ailleurs. Ici, on ne produit plus rien, évidemment, chez Vues et Voix. Et je me disais en préparant l'émission que c'est sûrement le meilleur moment pour découvrir les livres audio, ce qui existe déjà chez nous, c'est certain, mais aussi le livre audio en général, qui existe sur toutes les plateformes, le livre audio qui peut vous faire passer le temps si... Et ça va arriver, vous êtes écœuré de vous user les yeux sur un écran.
À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés. Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver. Comme la lune fidèle à n'importe quel quartier, je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter. La, 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 la. Dans n'importe quel quartier d'une lune perdue, même si les maîtres parlent et qu'on ne m'entend plus, même si c'est moi qui chante à n'importe quel coin de rue, je veux être utile à vivre et à rêver. La, 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 la. Thank you. À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés, comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile, à vivre et à rêver, comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter. À quoi sert une chanson si elle est désarmée?
Et il y a plein de façons de se sentir utile lorsqu'on traverse des périodes pas faciles comme celles que la Terre traverse en ce moment. Et le sport en fait partie. Les sportifs, de façon générale, sont utiles à rêver, à vivre et à chanter aussi. Et ce n'est pas Mark Griffin qui va me dire le contraire. Bonjour, Mark.
Non, certainement pas.
Hein? Sauf que... voilà, manque de bol, manque de peau, manque de chance, on va dire ça comme on veut, mais avec ce méchant virus-là, eh bien, tout est un peu en arrêt, y compris la nouvelle saison de baseball, qui, bon, nous, au moment où on diffuse l'émission, on est début avril, ça devait commencer quand cette année, Marc?
En fait, ça devait commencer officiellement le 28 mars, c'était un peu tôt d'ailleurs cette année, mais effectivement, il n'y a pas d'exception, hein, que ce soit le sport ou ailleurs, on est confiné à attendre et c'est correct.
Et absolument, Marc, mais on a quand même ce livre Griffin 26, nous, qui est sur la table, qui est en cours de préparation et au moment où on a tous été un petit peu, non pas totalement confinés comme en Europe, mais au moment où les recommandations nous disaient « soyez prudents individuellement pour la collectivité », vous aviez déjà fini de lire ce livre qui est le vôtre, Mark Griffin, et donc vous êtes devenu lecteur aussi pour la circonstance. Et donc, on a tout fait pour le terminer, ce bouquin-là, et pour le mettre en ligne sur notre catalogue livreaudio.vusezvoix.com. Alors, Mark Griffin, évidemment... joueur de baseball, idole même pour certains jeunes, sûrement, comme vous, vous avez eu certains idoles, on va en reparler. Également commentateur à RDS, hein, analyste, devrais-je dire, aussi pour le baseball. Il y a aujourd'hui ce livre, Griffin 26, donc maintenant écrivain, c'est une autre corde à votre arc. Et vous avez pris un plaisir fou, j'imagine, à nous raconter comment on devient un joueur de baseball professionnel, entre le moment où on est ticu et on joue avec un mini bâton, jusqu'au rang professionnel et jusqu'à gagner des prix et jusqu'à être célébré. C'est ça ce livre-là, hein, Mark Griffin?
C'est effectivement, c'est de faire rêver. Je pense que chaque jeune, que ce soit gars ou fille, rêve à un moment donné d'être une de ses idoles. Encore une fois, moi, c'était dans le sport, évidemment. Et puis, à un moment donné, j'ai voulu l'imiter, j'ai voulu faire ce qu'il avait fait. Puis finalement, ces rêves-là, c'est de suivre les traces de ses idoles, m'a amené à des endroits où je m'étais jamais imaginé que j'allais me rendre moi-même. Mmh. Et finalement, j'ai foulé les mêmes terrains que mes idoles. Alors, c'est un peu cette histoire-là. Puis, évidemment, venant du Québec, très peu de Québécois vont atteindre le baseball majeur ou ont atteint le baseball majeur. Donc, déjà, il y avait une certaine rareté dans ça. Mais tout ça pour dire que rien n'est impossible.
Non, c'est ça.
Rien n'est impossible. Alors, c'est de rêver, mais de foncer surtout, puis d'essayer d'atteindre. En fait, l'objectif, c'est d'aller au bout que chaque personne peut aller. Et c'est ça qui est l'objectif dans ça.
Mark Griffin, ce qu'on va faire, parce que j'ai eu envie qu'on en écoute deux extraits, on va d'abord se reporter à votre enfance et puis ensuite on ira un petit peu plus loin, mais un premier extrait pour que les gens puissent vous entendre lire votre bouquin.
Wow, je suis au stade olympique. Il y a du monde partout et le terrain est immense. Nous sommes assis derrière le marbre, un peu vers le premier but. Tandis que les vendeurs de bière crient à tue-tête « Cold beer, bière froide! » Le vendeur de café, lui, murmure d'une voix toute douce « Coffee, café, ça me fait bien rire. » Je suis complètement captivé par tout ce qui se passe. La musique qu'on entend et son écho, la mascotte Youpi qui se promène et qui m'apparaît plus grosse que je ne l'imaginais, c'est magique. Le match commence et le spectacle est grandiose. La vitesse des tirs, la puissance des frappeurs et, encore une fois, ce gigantesque stade. Vers la fin du deuxième match, Steve décide de m'emmener tout juste derrière l'abri des joueurs des Expos pour être encore plus près de l'action. « Tiens ton gant prêt à saisir une balle fausse. Ça vient très vite, me dit-il. » À la fin de la manche, Gary Carter retourne vers l'abri et je croise son regard. Oui, j'en suis certain, il me voit et il me sourit même. OK, c'est confirmé. Un jour, je serai un joueur des Expos et je jouerai au Stade olympique.
Et vous, vous en êtes fait des promesses comme ça, hein? Tout au long du livre, hein?
Exact, exact. Alors, oui. c'est la beauté de la chose. C'est vrai, je m'imaginais tellement être à sa place à un moment donné, comme joueur d'hockey aussi, comme joueur de baseball. Alors, c'est ça qui est la beauté dans l'image qu'on se fait d'un jeune de 7, 8, 9, 10 ans. Ben, c'est ça, c'est exactement ça.
Mais qu'est-ce qui fait la différence à un moment donné? Parce que Mark Griffin, faut pas se leurrer, des joueurs, des mômes qui jouent dans la ruelle, qui se prennent pour Gary Carter ou qui se prennent pour Mark Griffin ou qui se prennent pour, je sais pas moi, en ce moment là j'ai pas de nom de joueur au hockey dans la tête,
Gary mais Price,
voilà c'est ça. Il y en a beaucoup qui rêvent, mais de vous à moi il y en a peu qui vont y arriver. Qu'est-ce qui a fait la différence avec vous? Pourquoi vous?
Ben, écoutez, c'est difficile de mettre le doigt sur un aspect seulement. Moi, je vous dirais je jouais constamment. Constamment, j'étais à l'extérieur. Je me lançais, je frappais. En fait, sans savoir que je m'entraînais. Je m'amusais, mais je m'amusais quotidiennement à mes sports préférés. Mmh. Et à un moment donné, ben, vous savez, on développe des aptitudes et tout ça. C'est sûr qu'il faut y avoir un certain talent ou de la physionomie qui nous aide. Bon, il y a un paquet de choses, mais je pense réellement que le fait d'avoir aimé ça puis d'avoir de vouloir me rendre là, ce désir réel, fait en sorte que ça aide beaucoup là,
Les copains, par exemple, quand vous jouez avec votre meilleur ami à l'époque et vous jouez, alors expliquez-nous ça, parce que au petit bâton.
Alors le mot est dit, c'était un tout petit bâton de baseball, mais vraiment minuscule, là, je vous dirais, là, probable, je dirais pas le tiers, mais disons, en tout cas, certainement la moitié d'un vrai bâton. Uh-huh. Et c'était donc tout petit, très léger, et on lançait des balles de tennis, évidemment, pour pas se faire mal, mais surtout, on lançait fort, on voulait vraiment retirer le frappeur. Alors, à ce moment-là, on se développait une coordination main-œil tout à fait... Ça fait incroyable et on jouait ça tous les jours de l'été. Le matin, la première chose que je faisais avec mon ami, c'est de s'appeler, puis surtout lorsqu'il faisait beau, puis on allait jouer au petit bâton. Alors, comme je disais, c'est que sans vraiment le savoir, tout en s'amusant, on développait plein d'aspects de ce sport-là qui nous a permis éventuellement de jouer à des niveaux inimaginables.
Et lorsque vous êtes arrivé avec des vrais bâtons, notamment la première fois que vous avez joué avec un bâton de bois, c'est plus lourd. Ça vous a fait tout drôle, mais vous êtes toujours dit, mais finalement, effectivement, ce que je faisais dans la rue, ça m'a servi beaucoup, quoi.
Exact. Vraiment. Parce que, vous savez, tout à fait. Puis je pense que c'est parce que les gestes sont les mêmes. Alors, à un moment donné, la mémoire musculaire fait en sorte que là, on a pu répéter ces mêmes gestes-là.
Et alors, un jour, vous jouez, et celui qui est derrière le casque grillagé, c'est Gary Carter en personne. Oh, wow! Comment on se sent? Sûrement pas gros dans ses culottes, mais comment on se sent pour vrai?
Je me suis dit souvent dans mes aventures comme ça, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que j'ai vraiment ma place parmi ces gens-là? Puis à chaque fois que je croisais Gary Carter, que je croisais Tim Raines, ou des joueurs que j'avais vus à la télévision, puis que là, j'étais rendu leur coéquipier avec un uniforme, le même uniforme sur le dos, plusieurs fois, je me suis dit, mais vraiment, est-ce que je suis vraiment ici? Est-ce que je suis en train de vivre ce moment-là? Puis ça m'a, à chaque fois, ça ne faisait jamais exception, même après 4, 5, 6 années de baseball professionnel, j'avais quand même l'impression que j'étais encore ce jeune amateur.
C'est vrai.
Effectivement. Et puis bon, à un moment donné, la partie commence, puis on se met à jouer, mais il y avait toujours cette espèce de sentiment-là qui est très, très fort, hein, parce qu'évidemment, nos souvenirs nous refont surface, puis c'est vraiment beau. C'était des moments tout à fait uniques.
Mark Griffin, c'est bien joli le baseball, c'est bien joli d'arriver entre autres dans les ligues mineures, mais je pense pas que les gens se rendent compte à quel point faire les mineures, c'est pas évident. C'est pas facile à vivre, je veux dire, financièrement, à tous les niveaux. Enfin, moi, quand j'ai découvert votre livre, j'en revenais pas. Je me suis dit, waouh, pour arriver jusqu'au majeur, là, non seulement il faut qu'il ait du talent, Ticu, mais il faut qu'il ait de la volonté, du courage. C'est pas évident. Ouais. En faisant même psychologiquement, ouh, il y a des trucs.
En fait, c'est fait pour que tu ne puisses pas rester dans les rangs mineurs professionnels.
Ouf. On dirait l'armée, ça.
À différents égards, oui.
Oui.
C'est que. Vous savez, l'objectif, c'est de se développer pour se rendre dans les ligues majeures. Souvent, on va donner un 5 à 6 ans aux jeunes de voir s'il est capable de. Mais si vous êtes là 5 ou 6 ans, c'est parce qu'on croit encore en vous, parce que la plupart, après 2 ou 3, l'aventure est déjà terminée. Mais effectivement, c'est fait pour pas qu'un jeune ou un joueur puisse passer 10, 12 années dans les rangs mineurs avec un salaire décent qui a fait en sorte que ça ne fonctionne pas comme ça au baseball. Au baseball, c'est que tu fais à peu près pas d'argent parce que justement tu veux te rendre en haut tout l'argent est en haut évidemment là. Alors c'est pour ça que c'est difficile. Alors tu vis avec 4 coéquipiers dans un 4,5 et tu partages une voiture, c'est vraiment
le coût de l'essence, c'était quelque chose allez chercher votre blonde puis que là vous mettez juste 2 piastres d'essence, il n'y en avait pas assez.
C'est parce que c'est comme ça que ça...
Mais oui.
À un moment donné, mais ça forme le caractère. Je peux vous dire une chose, ça met en place évidemment les vraies choses de la vie. Puis je pense que l'objectif aussi, c'est de se développer comme personne. Puis je pense que les rangs mineurs nous offrent ça de façon importante. Là.
Oui, puis en plus, vous tombez sur des entraîneurs, bon, avec qui, là, il y en a avec qui vous vous sentez bien tout de suite, mais il y en a effectivement qui passent pas par 10 000 chemins pour vous dire les choses en face. C'est genre, Griffin, toi, là, va falloir que tu te renforcisses un petit peu parce que là, ça marche pas. Là, tu sais, à un moment donné, là, quand vous vous plaignez parce que vous ne jouez pas assez ou je sais plus quoi, en tout cas, puis là, on vous dit, hey, le jeune...
Non, exactement. Ouh. Non, mais c'est ça. Ben, on parlait un peu de l'armée tout à l'heure. C'est qu'on a différents types de. Il y a un général qui a un style X, l'autre qui a un style Y. Alors, il faut que tu t'adaptes à chaque fois à ce genre de style-là. Mais c'est pas toujours agréable de se faire crier après.
Non.
D'autres aiment mieux se faire avoir une petite tape dans le derrière pour d'encouragement. Alors, il faut se faire. C'est comme ça.
Vous avez 3 fils, hein, Mark Griffin?
Oui.
Est-ce qu'ils jouent au baseball, les 3?
Ben oui.
Êtes-vous dur avec eux comme ça?
Ben, vous savez, mon premier a été, c'est notre premier enfant. Fait que oui, j'étais un petit peu dur avec lui. En fait, dur, je dirais exigeant.
Oui, comme on l'a été avec vous, oui.
Exact. Les deux autres, beaucoup moins, dans le sens que je veux qu'eux autres vivent eux-mêmes, comment dirais-je, leur défi là, devant eux. Mais bon, c'est comme n'importe quel parent. Là. Après le premier, on a appris, puis le deuxième, puis le troisième. Les trois font du sport, les trois sont compétitifs, mais les trois font ça de la bonne façon actuellement, puis j'en suis très fier.
Alors, on va écouter un autre extrait. C'est un autre grand moment que vous avez vécu, que vous avez failli ne pas vivre à cause d'une blessure. On va en parler un petit peu plus tard, des blessures. Mais là, finalement, vous participez aux Jeux olympiques. Et ben forcément, quand on est au jeu, hein, on n'est pas les seuls athlètes au jeu. Alors ça, c'est un moment que j'ai adoré, on l'écoute.
À 2 jours de notre premier match, je me rends seul à la cafétéria du village pour déjeuner. L'immense salle accueille tous les athlètes de chaque pays et on y retrouve de la nourriture de presque partout. Mon coéquipier Barry Parasotto me rejoint à la table. « Griff, vois-tu qui sont assis juste là? » me demande-t-il. Je me retourne aussitôt et m'aperçois que je déjeune aux côtés de Steffi Graf et Gabriella Sabatini, deux des plus grandes joueuses de tennis du monde. Je ne suis pas encore descendu de mon nuage après l'incroyable cérémonie d'ouverture que je dois me pincer à nouveau pour me convaincre que je suis près de tels athlètes. Qu'est-ce que je fais ici? Moins de 48 heures plus tard, dans l'autobus qui nous mène au stade de baseball, je mets à réfléchir à cette aventure complètement folle et réalise à quel point la vie peut nous surprendre avec des moments envoûtants et parfois combien irréel. Je m'avais disputé un match aux Jeux olympiques à Séoul, alors qu'hier à peine, je jouais au petit bâton avec Bed.
Oui, effectivement, quand on est en train de manger son petit gruau, puis que soudain on se tourne, puis qu'on voit des gens comme...
Je peux vous dire que ça... Je me disais, mais où avais-je la tête de ne pas les avoir vus? Mais c'était vraiment fascinant de voir les deux à côté, puis que partager un déjeuner comme si rien n'était. Là.
Marc, un impondérable qui n'en est pas un quand on fait beaucoup de sport, ce sont les blessures. Vous-même, vous avez été victime d'un accident à la cheville, vous avez été opéré aussi du coude. Enfin bon, il faut faire avec aussi, mais ouf! En même temps, j'ai la question que j'ai envie de vous poser, parce que vraiment, je ne comprends pas. Comment, même jeune, comment un athlète fait-il pour se remettre sur pied, quoi, après 3 semaines, après une grosse entorse? Ça, je dois dire que... Vous êtes fait en quoi, les athlètes? Franchement. Non, mais vraiment, tu sais, nous, on est là. Ouais. Moi, j'en ai fait une à chaque pied. J'ai mis 1 an à m'en remettre, quand même.
Écoute, puis lorsqu'on se blesse, puis on a 18, 19, 20 ans, je pense qu'on réalise pas nécessairement tout ce qui se passe. Là. C'est-à-dire qu'on s'entraîne, on a un objectif précis, et là, il y a une blessure, parce que tu ne peux jamais te préparer à une blessure. Là. Ça arrive quand ça arrive.
C'est ça.
Lorsque c'est là que tu t'aperçois que bon, tous les efforts faits avant cette blessure-là, faut pas que ça soit gaspillé, ça. Alors, t'as l'impression que là, tu fonces, puis tu dis, ben écoute, je sais pas, j'avoue que j'ai guéri très vite de mes blessures, j'en suis très chanceux et très heureux, mais je sais pas s'il y a un aspect mental, j'en doute, mais ça fait en sorte qu'en tout cas, je voulais tellement revenir que ça m'a permis de revenir et de vivre des bons moments, parce que cette fameuse blessure à la cheville dont tu fais mention, si jamais je ne reviens pas, par exemple, pour les Jeux panaméricains, je ne sais pas s'il y a une suite à cette histoire.
Oui, c'est ça.
Des fois, là, ça passe par pas grand-chose qu'une carrière se poursuit ou s'arrête à un certain moment donné. Et heureusement qu'à ce moment-là, ben, ça a été plus une aventure que... positive que négative.
Oui, bien sûr. Marc, on pourrait aussi beaucoup parler de la visualisation, ça c'est important. J'ai l'impression que c'est important pour les joueurs de baseball, mais c'est important pour absolument aussi tous les athlètes. On a parlé des blessures, il y a les blessures du cœur aussi. Vous en parlez un petit peu dans ce livre, mais en même temps pas complètement, parce que là, il est vraiment question surtout de la passion pour ce sport-là. Mais c'est pas facile, hein, la vie en deux, à deux, quand on est dans les mineurs et que malheureusement, ben, on est obligé de dire à l'autre 2 fois ou 3 fois plutôt qu'une, on arrête ça là, chérie.
Ouais, non, c'est pas des vies faciles. Jouer premièrement au baseball, c'est que tu pars 6, 7 mois, 8 mois par année.
Et on joue beaucoup. J'en reviens pas. C'est combien de matchs que vous faisiez dans les mineurs aussi?
C'est 142 dans les mineurs, 162 dans les majeurs. Mais là, j'exclus les camps d'entraînement, j'exclus les ligues d'automne. Alors, vous ajoutez un autre 30, 40 parties dans tout ça. Donc, c'est quotidien.
Ça en fait des balles à lancer.
Et ça fait, donc, à ce moment-là, même lorsque tu reviens à domicile, t'es quand même, évidemment, tu sais, en action, t'es pas réellement chez vous. Donc, il y a pratiquement 8 mois par année où, bon, ben, écoutez, moi, je me concentre sur ma carrière. Donc, il reste un petit 3-4 mois. C'est pas facile. Il y a l'éloignement, il y a un paquet de facteurs qui fait qu'à un moment donné, ça devient, bon, extrêmement difficile d'avoir du succès dans les deux. Donc, autant dans le sport que... Évidemment, à l'extérieur.
Alors là, ben, on est content en ce moment pour votre épouse et vos enfants, que tout ça soit derrière vous. Mais vous êtes donc commentateur, analyste hein, plutôt. C'est le vrai terme pour le réseau des sports. Malheureusement, cette année, bien le début de la saison. Est-ce que c'est toute la saison qui est compromise d'ailleurs ou c'est
non. Pour l'instant. On va attendre au moins jusqu'au mois de mai, mais bon. On espère de bonnes nouvelles éventuelles que la saison puisse démarrer.
Bon, même si vous avez joué longtemps pour les Dodgers, qui vous avez fait une meilleure offre que les Expos, vous avez les Expos, cousus sur le corps, cousus à la place du cœur. Est-ce que vous pensez réellement, Mark Griffin, qu'un jour vous allez commenter le premier match des Expos à domicile et qu'on va revoir l'équipe des Expos à Montréal? Écoutez, je sais qu'en ce moment, par les circonstances, là, ça a l'air un petit peu futile. Mais soyons futiles, parce que comme le disait Julien Clerc, il faut être utile à quelque chose. Alors, non, ne considérons pas que c'est futile, c'est important aussi.
Ben oui, ben écoutez, c'est sûr que bon, j'ai pas une boule de cristal non. pour vous dire si oui ou non, mais...
Ah, vous me décevez!
Mais ce que j'aime dans tout ça, c'est que les gens qui sont derrière sont sérieux, c'est des gens qui veulent que ça fonctionne. Alors, c'est sûr que moi, ça me donne cette énergie-là d'y croire, puis de mettre justement à rêver que ça puisse fonctionner. Alors, je m'accroche à ça présentement. C'est sûr que c'est pas des dossiers qui sont facilement réglables non plus, mais j'ai vraiment l'impression quand même que, étant donné qu'il y a tant d'efforts mis de ce côté, je me dis que je suis plus optimiste présentement que je n'ai jamais été. Donc, je souhaite que les circonstances vont faire que ça fonctionne.
Marc Griffin, en une minute, pourquoi le baseball, c'est le plus beau sport du monde?
Ah, ben vous savez, le baseball, c'est un sport qui, vous savez, dans cette vie que l'on a présentement, où tout va vite, on a un sport on peut ralentir un peu, c'est-à-dire on peut réfléchir un peu. Le baseball est un sport très stratégique. Et souvent, les gens me disent « Ah, mais c'est lent. » Non, c'est pas si lent. Parce qu'il faut constamment penser à quelle sera la prochaine stratégie. Constamment. Mmh. Chaque lancer, c'est différent. Donc, il y a des choses comme ça qui font que c'est un sport extraordinaire. Et vous savez, de frapper une balle, de rien sentir sur le bâton et de la voir partir à plus de 400 pieds, il y a pas meilleur feeling que ça.
Ben, écoutez, je suis un petit peu golfeuse à mon heure et je sais que ce sentiment-là, quand on ne sent pas la balle, justement, au bout de son bâton, souvent c'est parce qu'elle va être frappée droite et loin. Alors j'imagine que ça doit être le même feeling, quoi.
Alors imaginez si vous frappez des balles et elles franchissent 300 quelques verges, je pense que vous l'avez senti. C'est ça. Alors, c'est vraiment plaisant, mais c'est le jeu du chat et de la souris entre lanceur et frappeur aussi qui fait que ce sport-là est vraiment magnifique.
Si un jour on allait sur un terrain ensemble, est-ce que vous me montriez un petit peu à frapper une balle molle ou tout ça?
Ben, absolument.
Ben, j'aimerais ça. Marc Griffin, votre livre s'appelle Griffin 26, comme ce numéro que vous avez tant chéri et porté tout au long, ou presque, de votre carrière. Ouais. Merci pour votre carrière. Merci pour votre gentillesse, Marc, parce que j'ai eu l'occasion de vous côtoyer beaucoup et vous ne vous prenez pas pour un autre et pourtant vous pourriez. Et ça a été vraiment superbe de vous avoir avec nous tout le temps de la production de ce livre-là qui est maintenant sur livreaudio.vusezvoix.com. Voilà, merci Marc Griffin.
Ben merci à vous. Vous savez, j'ai eu des bons coachs dans ma vie, mais vous avez une place spéciale également parce que vous avez coaché.
Merci Marc.
Vous avez coaché dans un endroit où c'était très difficile pour moi d'exceller.
Des livres pleins les oreilles, seconde partie. Alors, on passe toutes et tous, oui, par des moments plus ou moins faciles et c'est généralisé, pas seulement à la province, bien sûr, mais partout autour de la planète. Et chacun, en ce moment, se demande comment tuer le temps, comment passer le temps. Je sais que les parents ont beaucoup de mal avec les enfants. Il y a un moment donné où on s'arrache un petit peu les cheveux de la tête. On n'a plus le cinéma pour les sortir. Même les sorties dans les parcs et tout ça, c'est de moins en moins possible. Mais avez-vous pensé aux livres audio? Comme j'anime cette émission des livres pleins les oreilles, si je ne pense pas à vous suggérer le livre audio, je ferai carrément pas mon travail. C'est vraiment le bon moment pour que vous essayiez ça et pour que vous le fassiez entendre et pour que vous fassiez essayer également ce type de littérature. C'est une autre façon de lire le livre audio à vos enfants. J'ai envie de vous dire, bon, vous savez qu'ici, on va peut-être commencer par ce que je connais le mieux, mais à Vues et Voix, on a quand même sur notre plateforme plus de 200 bouquins à découvrir, parmi lesquels des bouquins très récents comme Mafia Inc. ou encore Ghetto X. Vous savez, cette aventure de l'inspecteur Lessard, lu par lui-même en l'occurrence, puisque Patrice Robitaille a lu ce livre et je l'avais d'ailleurs accueilli dans le cadre de l'émission Des livres pleins les oreilles. Au milieu de ces 200 livres-là, je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas des bouquins que vous puissiez vous mettre entre les oreilles. Je pense à des livres qui font du bien au cœur, tiens, comme ceux de Nicole Bordelot, des séries aussi de chez nous, comme celle écrite par Louise Tremblay-Dessien, et puis d'autres auteurs ou encore historiens. Des bouquins pour vos enfants aussi, d'autres pour réfléchir. Il y a aussi quelques essais brillants, séduisants, instructifs, révélateurs. Écoutez, je vais bientôt manquer d'adjectifs et d'adverbes. Bref, tout est dans ce catalogue. Maintenant, il y a peut-être parmi vous des gens qui vont me dire « Oui, mais en ce moment, on n'a plus les moyens d'acheter des bouquins, ni en audio, ni sur papier. » Et je peux vous comprendre. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous proposer, ce sont des plateformes de livres gratuits qui existent par exemple en France et qui font en ce moment parler d'elles beaucoup. Alors vous me direz, c'est en France, comment on fait? C'est facile parce que par Internet, tout est faisable. Vous pouvez vous les télécharger. Je pense à par exemple BibliBoom ou encore Littérature Audio. Si vous faites BibliBoom, BibliBoom.fr ou Littérature Audio, si vous faites juste ça, vous allez tomber directement sur leur site. Je suis allée écouter, honnêtement, c'est pas fait par des comédiens, mais c'est très bien fait. J'ai entendu du Dostoïevski, j'ai entendu du, en tout cas, toutes sortes de classiques comme ça, Victor Hugo, évidemment, qui sont libres de droit. Mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas se retaper l'œuvre de Tolstoï, par exemple? Eh bien, ces livres-là, audio, vous permettent de le faire et c'est absolument gratuit. Et puis, je voudrais encore repréciser aux gens qui peut-être ne le sauraient pas qu'il existe également déjà ici CAEB et le SQLA, Service québécois du livre adapté, qui offrent en permanence des livres audio gratuitement pour les personnes qui en ont besoin. Donc pour les personnes qui sont mal ou non-voyantes ou d'autres personnes qui n'ont plus accès à la littérature imprimé pour une raison ou pour une autre. Là encore, ces moments difficiles que nous vivons, c'est peut-être le temps de faire découvrir ces organismes-là qui vous offrent gratuitement la possibilité d'écouter des livres par les oreilles. Alors moi, je suis là pour vous proposer des titres et c'est ce que je vais faire pendant cette seconde partie. J'ai des essais à vous proposer, j'ai des romans par exemple, quand on parle d'essais, peut-être que vous connaissez la collection qui s'appelle Pour les nuls. Non, je ne suis pas en train de dire que vous êtes nuls, je suis moi-même une abonnée de la collection Pour les nuls, j'en ai pas mal à la maison et honnêtement souvent elles sont très bien faites parce qu'elles nous expliquent des choses qu'on ne connaît pas forcément. Et là, figurez-vous que Lizzy, qui est une maison de production française et une plateforme de vente de livres audio, a décidé de sortir déjà quelques exemplaires de cette collection Pour les nuls. Je vais vous en faire entendre un extrait, c'est l'extrait du bouquin qui s'appelle Parler en public pour les nuls. Alors j'aurai un extrait pour vous un petit peu plus tard. Et puis, écoutez, je vais. Y a aussi des nouvelles littéraires, mais comme j'enregistre deux semaines avant, elles seront dépassées. Mais vous le savez maintenant, le Salon du Livre de Québec est annulé. Le Festival Métropolis Bleu aussi est annulé. Tout ça, ce sont des événements littéraires importants pour vous, lecteurs, mais importants pour les auteurs. Je voudrais avoir une pensée pour les auteurs et pour les éditeurs. Souvent, c'est pas non plus très très riche ce monde-là, et c'est grâce à ces salons-là, c'est grâce à ces festivals-là s'ils parviennent à se rapprocher de leur public, de leurs lecteurs, qu'il s'agisse de livres audio ou sur papier, peu importe. Là, on parle de la littérature en général. Alors, je voudrais aussi avoir une pensée pour ces gens-là, puisque tous les livres qui devaient sortir là, maintenant, en ce moment, aussi bien en audio chez nous qu'en version imprimée, chez la plupart des éditeurs québécois, tout a été annulé. Et c'est la même chose pour les livres francophones, qu'ils nous viennent de France ou de Belgique. Tout est repoussé, il y a une date ultérieure, c'est le cas de le dire, et quand pour l'instant, personne ne le sait. Bon, je vais arrêter d'être bavarde, on va écouter un petit peu de musique, tiens, Barbara, pourquoi pas. Et puis après, je vous reviens avec des suggestions de chez nous et d'autres plateformes de livres audio.
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, il y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, il y a l'assassin de service qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre à la mienne. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne, la populaire d'un assassin, que le fils de mon voisin. Ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant. De voir tomber des têtes, à la fin ça m'empête. Et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant, quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme, ce fils de rien, ce tout est pire. Cette crapule au tout sourire, ce grand gars au cœur tendre, qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir, pour l'avenir de la France, contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste, surtout qu'il soit fidèle. Surtout, je vous rappelle, à l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait. C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon, qu'on m'amène ce jeune homme. Si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne.
Alors, des livres que vous pourriez vous glisser entre les oreilles en cette période difficile. Pourquoi pas aller sur notre catalogue, par exemple. Depuis peu de temps, vous y retrouverez un livre, d'ailleurs plusieurs livres signés Christine Brouillet. C'est quand même pas mal, des petits polars en ce moment. Pourquoi petits? Je dis pas petits parce qu'ils sont moins bons. Un petit polar, c'est comme on dirait, viens prendre un petit verre, quoi. C'est vraiment juste ça. Je voudrais vous proposer un extrait de Chère voisine, lu par Nathalie Coupal. Nous sommes dans un immeuble du quartier latin à Québec où vivent Roland, un séduisant paraplégique, Victor, un enseignant au grand cœur, et Louise, une célibataire, amoureuse des chats. Des meurtres sadiques commis aux alentours vont alimenter leur conversation. On va faire connaissance avec Louise.
Encore choisi définitivement le nom de la chatte. Il miaulait en chœur. Leur maîtresse se levait, trébuchait souvent sur le tapis ou sur le téléphone, se dirigeait au radar dans la cuisine où, même si l'odeur l'écœurait, elle ouvrait une boîte de nourriture pour chat. Au moins, à Noël, elle avait reçu en cadeau un ouvre-boîte électrique. C'était moins déprimant que de se battre avec un ouvre-boîte manuel qui n'ouvrait même pas tout compte fait. Elle écartait les chats du bout de ses pieds nus. Le même drame avait lieu chaque matin. Il se précipitait comme si ça faisait 25 000 jours qu'il n'avait pas mangé. C'était assez impatientant. Puis, Louise allait se recoucher 10 minutes, jouissant et désespérant à la fois de ses derniers instants de sommeil. Pas de vrai sommeil, de rêve plutôt. Il faisait toujours beau dans ses rêves. On ne pouvait pas en dire autant de la journée qui commençait.
Vos enfants tournent en rond, hein, et comme on peut les comprendre. Pourquoi ne pas leur faire découvrir le coffret de la comtesse de Ségur tel que lu de façon magistrale par Angèle Coutu? Nous avons fait ça également ici dans les studios de Vues et Voix. Camille et Madeleine de Fleurville, par exemple, dans Les Petites Filles Modèles, et leur amie Marguerite de Rosbourg, ces trois adorables petites filles qui font la joie de leur chère maman, évoquées donc dans un de ses premiers livre de la comtesse tel que lu par Angèle Coutu, extrait.
Madame de Fleurville était la mère de deux petites filles, bonnes, gentilles, aimables, et qui avaient l'une pour l'autre le plus tendre attachement. On voit souvent des frères et des sœurs se quereller, se contredire, et venir se plaindre à leurs parents après s'être disputés de manière qu'il soit impossible de démêler de quel côté vient le premier tort. Jamais on n'entendait une discussion entre Camille et Madeleine. Tantôt l'une, tantôt l'autre cédait au désir exprimé par sa sœur. Pourtant, leurs goûts n'étaient pas exactement les mêmes. Camille, plus âgée d'un an que Madeleine, avait 8 ans. Plus vive, plus étourdie, préférant les jeux bruyants aux jeux tranquilles. Elle aimait à courir, à faire et à entendre du tapage. Jamais elle ne s'amusait autant que lorsqu'il y avait une grande réunion d'enfants qui lui permettait de se livrer sans réserve à ses jeux favoris. Madeleine préférait au contraire à tout ce joyeux tapage les soins qu'elle donnait à sa poupée et à celle de Camille, qui, sans Madeleine, eût risqué souvent de passer la nuit sur une chaise et de ne changer de linge et de robe que tous les 3 ou 4 jours. Mais la différence de leur goût n'empêchait pas leur parfaite union.
Le trône de fer, êtes-vous des Game of Thrones, là, comme on appelle ça ici plutôt, êtes-vous des fanatiques? Et c'est absolument incroyable parce que l'enregistrement de ça a commencé il y a à peu près, c'était en 2014, je pense, que les premiers livres audio sont nés, tous lus par Bernard Métro, toute la série a été lue par le même comédien, imaginez donc. Et là, ils sont rendus au tome 14 qui vient de sortir chez Gallimard, écoutez, lire. Et au même moment où je découvrais aussi un article paru dans Ouest France qui nous dit que, confiné, l'auteur de Game of Thrones en profite pour écrire le dernier tome de la saga. En effet, il est en isolement chez lui, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, et il en profite pour écrire, ce qui finalement est une bonne nouvelle pour les fans de cette saga à succès qui attendent le 6e tome avec impatience depuis 2015.
Le temps qu'ils atteignent Volantis, le ciel était pourpre à l'occident et noir au levant, et les étoiles paraissaient. Les mêmes qu'à Westeros, songea Tyrion Lannister. Il aurait pu puiser quelque réconfort à l'idée qu'on ne l'avait pas troussé comme une oie et attaché en travers d'une selle. Il avait renoncé à se débattre. Les nœuds qui le retenaient étaient trop serrés. Il s'était laissé aller aussi mou qu'un sac de farine. « J'économise mes forces », se répétait-il. Mais à quelle fin, il n'aurait su le dire. Volantis fermait ses portes à la tombée de la nuit, et les gardes à sa porte du nord maugréaient avec impatience devant les retardataires. Ils se joignirent à la file, derrière un chariot chargé de citrons et d'oranges. De leurs torches, les gardes firent signe au chariot de passer, mais leur regard se durcit en voyant le grand Andal sur son palefroid, avec sa longue épée et sa maille. On fit venir un capitaine. Tandis que celui-ci échangeait avec le chevalier quelques mots en volantin, un des gardes retira son gantelet griffu pour frictionner le crâne de Tyrion. « Je déborde de chance, » l'encouragea le nain. « Tranche mes liens, l'ami, et je veillerai à ce que tu en sois bien récompensé. » Mon ravisseur l'entendit. « Garde tes mensonges pour ceux qui parlent ta langue, lutin, » lui conseilla-t-il. Puis les volantins lui firent signe de passer.
Après le trône de fer, je vous propose quelque chose de complètement différent. C'est chez Audiolib cette fois-ci, la Rhapsodie italienne de Jean-Pierre Cabanès, lue par Michelangelo Marchese. Nous sommes en 1915, deux hommes que tout sépare vont se rencontrer sur les champs de bataille. Lorenzo, jeune et brillant officier de l'armée italienne, et Nino, le Sicilien, qui s'enrôle pour échapper à la prison après avoir commis un crime d'honneur. La guerre va faire d'eux des compagnons d'armes, des frères, avant que le règne de Mussolini ne les transforme en ennemis. Tandis que les hommes sont emportés dans le tourbillon des combats, le temps des femmes est venu. Elles vont s'engager dans la plus belle et la plus dangereuse des luttes, celle pour l'amour, l'indépendance et la liberté. Des premières heures du fascisme à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les passions politiques et les passions des amants, les haines et les ambitions s'entrecroisent violemment. Jean-Pierre Cabanès, nous dit-on sur le site de Audiolib, nous entraîne dans une ample et voluptueuse fresque qui inscrit magistralement ces personnages dans l'histoire italienne du début du XXe siècle. Et quand on dit magistralement, je peux déjà vous dire que le livre audio dure 24 heures, non, un peu plus, 25 heures. Extrait.
Rhapsodie italienne, de Jean-Pierre Cabanès, lu par Michelangelo Marchese. Cela t'arrive souvent, n'est-ce pas, de déguiser les événements à cause de la censure? Tout le temps. On écrit tous comme ça. Ils prennent les lettres au hasard et si ça ne va pas un jour, tu es convoqué à l'état-major. Et après? On ne sait pas ce qui arrive après. Il y avait encore les moments où c'était elle qui lui écrivait. Parfois, il lui fallait 2 jours pour une lettre, car elle oubliait des faits qui lui semblaient importants et elle voulait les ajouter. Alors elle recommençait toute la lettre depuis le début. « Mes lettres, lui dit-elle, c'est comme si j'écrivais un livre. Il ne faut pas me tromper sur ce que je t'écris. Je sais que c'est important pour toi. » Elle lui parle des livres qu'elle a lus ou relus, car depuis le début de la guerre, il ne se publie presque rien. Les auteurs sont partis au front. Après la guerre, dit Lorenzo, les auteurs se mettront tous à écrire sur ce qu'ils auront vécu. Il y aura pléthore de livres sur le sujet et ils se vendront très bien. Si l'Italie est vainqueur? Il ne répond pas. Elle attend qu'il lui dise quelle sorte de fin il entrevoit, mais il se tait et elle n'ose l'interroger. Elle a vu les journalistes sur le quai de la gare qui le traitaient en héros et à quel point il en était agacé malgré cette décoration sur son uniforme. Mais ce soir, il est venu en civil. Il y a Mussolini dans mon régiment, finit-il par dire. Le journaliste? Celui qui dirige Il Popolo d'Italia? Avant, il était socialiste.
C'est toujours agréable, quelques mesures de Miles Davis à se glisser entre les oreilles. Je vous le disais en début d'émission, il est toujours bon de souligner les heureuses initiatives et là je vais en souligner 2. D'abord dans le domaine de la production audio, il y a en France, ça fait plusieurs fois maintenant que je vous en parle parce que quand j'ai l'occasion de vous parler d'une plateforme de livres audio, eh bien via cette émission, je ne me gêne jamais pour le faire. Je vous ai donc souvent parlé de Lizzie. Lizzie. Et ils ont décidé récemment d'enregistrer et de rendre disponibles en audio les fameux livres qui s'appellent « Pour les nuls », qui sont des espèces de guides, finalement. Il y en a pas mal, entre autres, pour le numérique. Je me rappelle, il y avait Windows 7 pour les nuls. Il y avait, en tout cas, c'était bon. C'est vraiment une grande, grande série, maintenant. Et ils ont décidé... Alors, est-ce qu'ils vont tous les faire? Je ne sais pas. De toute façon, je ne sais pas combien... Ça représente combien de bouquins, le catalogue pour les nuls? Mais c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Bah, se remarquer, ce serait fantastique qu'ils les fassent tous, ce serait vraiment fantastique et surtout ce serait une très bonne idée pour nous qui aimons écouter des livres. J'en ai choisi un pour vous parmi ceux qui sont déjà sortis chez Lizzy, c'est « Prendre la parole en public pour les nuls ». Ça a été écrit par Fabrice Carlier et c'est lu par Olivier Cuvelier avec l'aimable participation de Sophie Landresse. Alors on nous présente cela ainsi sur le site de Lizzy. Tous les outils et techniques nécessaires pour progresser à l'oral au travail. Tu causes, c'est tout ce que tu sais faire, disait le perroquet La Verdure à Zazie. Et ce n'est déjà pas si mal. Dans un nombre croissant de circonstances dans le monde professionnel, notre capacité à nous exprimer oralement nous distingue, nous favorise ou nous sanctionne. Et sommes-nous prêts à admettre tout à la fois la nécessité de bien parler et la nécessité qu'il nous faut progresser en la matière ? Parce qu'effectivement, nous ne sommes pas tous égaux devant la prise de parole en public. Alors, armé d'un petit peu de volonté et des précieux conseils que contient cet ouvrage, eh bien, chez Lizzy, on nous promet, et dans la collection pour les nuls, on nous promet que chacun peut s'améliorer. C'est donc un ouvrage qui favorise l'acquisition et la mémorisation des outils et des techniques nécessaires à votre progression. Pour vous améliorer, je sais pas, pour animer une réunion par exemple, ou pour donner une conférence, pour faire une présentation. Il faut dire que les occasions ne manquent pas de prendre la parole en public dans le monde professionnel. Alors on nous dit chez Lizzy, faites donc de ce bouquin un atout et la démonstration de votre talent pour mobiliser votre auditoire. Dans l'extrait que j'ai choisi, peut-être qu'on s'adresse à vous en ce moment.
Introduction.
Souvenez-vous de votre dernière prise de parole en public. Vous ne vous êtes pas trouvé très bon. Et vous êtes de plus en plus souvent agacé par certains membres de votre entourage, amis ou collègues, qui s'expriment très bien en public et vous devancent. Agacé, envieux et jaloux, au fond. Envieux et jaloux parce que vous avez progressivement pris conscience qu'être un bon orateur représente un atout significatif dans tous les pans de votre vie, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Et vous avez constaté de surcroît que l'oral prenait une place et une importance sans cesse croissante dans les réunions et les relations avec les autres. De plus en plus, en effet, l'oral devient prééminent dans le monde de l'entreprise, et sa maîtrise est désormais plus importante que celle de l'écrit. Ces constats sont parfaitement exacts, et la tendance semble appelée à s'accentuer encore. La maîtrise de l'expression orale aide effectivement à se sentir à l'aise, à être efficace, à progresser, et devient chaque jour un peu plus un atout. Son absence devient donc un handicap. Cela fait des années que vous ne vous trouvez pas très bon à l'oral, soit. Mais franchement, qu'avez-vous réellement fait pour y remédier ? Pas grand-chose, au fond. Parce que vous considérez que bien s'exprimer en public est un don. Une aptitude dont certains sont dotés dès la naissance et que vous ne faites pas partie de ces heureux élus. Pour vous, c'est un don et vous ne l'avez pas. Donc, il vous faut faire avec. Ou plutôt, en l'espèce, il vous faut faire sans. Avec fatalisme.
Voilà, prendre la parole en public pour les nuls de Fabrice Carlier, lu par Olivier Cuvelier, c'est chez Lizzy. Pour ceux qui voudraient que je leur donne tous les détails, les voici. Pour commander un livre chez Lizzy, il suffit de faire www.lizzy.audio. Et là, vous tombez sur leur catalogue. Et nul doute que vous tomberez sur ce livre-là, comme sur tous les autres qui sont, ma foi, très bien faits dans cette maison de production de livres audio. Au moment où j'écris ces lignes pour préparer cette émission, qui, je le rappelle, a été enregistrée il y a 2 semaines, j'apprenais qu'une première enveloppe de 5 millions d'euros avait été mise en place par le Centre national du livre, le CNL, en France, pour répondre aux difficultés, aux difficultés immédiates des éditeurs, des auteurs et des libraires. Les subventions versées par le CNL aux manifestations littéraires annulées pour des raisons sanitaires leur resteront acquises pour les aider à faire face aux dépenses déjà engagées. Autrement dit, moi, au moment où je vous parle, là, en principe, je m'apprêterai à prendre l'avion pour aller au Salon du Livre de Paris sur invitation de la maison d'édition Gallimard. Ben, écoutez, remarquez, l'avantage, c'est que je suis là avec vous et puis qu'au moins, je n'aurai pas à vivre ce que tous les autres qui ont été obligés de quitter quitter le pays ont vécu pour y revenir. Alors, bon, c'est un mal pour un bien. Ce qui me fait de la peine, c'est de savoir que, donc, ici, on en arrache beaucoup sur le plan littéraire, mais que là aussi, le gouvernement, apparemment, aurait prévu des mesures pour aider ceux que j'appelle les cigales, autrement dit les artistes. Et les artistes, ce sont pas seulement ceux qui chantent et ceux qui jouent la comédie. Les auteurs en font partie aussi. Alors j'ose espérer qu'effectivement, le gouvernement pourra venir en aide à des petites communautés, à des petits organismes comme nous et peut-être à des maisons d'édition aussi, à des gens qui se retrouvent le bec à l'eau, à des auteurs dont les livres ne seront pas promus parce que malheureusement les manifestations littéraires ont été annulées. Je pense entre autres au Festival Métropolis Bleu ou je pense aussi au Salon du Livre de Québec. Alors écoutez, bonne chance et bon courage à vous toutes et vous tous. Alors qu'il est, je n'ai aucune espèce d'idée s'il y aura une autre émission la semaine prochaine ou si nous devrons aussi, par respect, peut-être rester chez nous. Alors peut-être à la semaine prochaine ou sinon, bonne lecture et découvrez le livre audio. C'est tellement important et c'est tellement superbe. Salut, c'était Clotilde Say qui vous dit à bientôt.